Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus. Aujourd'hui, je me trouve dans les locaux de l'APA, à l'Association protestante d'assistance, que vous connaissez bien, dont nous avons déjà plusieurs fois parlé sur Radio Alliance Plus. Nous sommes un peu partenaires entre cette association et nous depuis fort longtemps, puisque nous avons déjà souvent évoqué l'histoire de l'APA et aussi tout ce que font les bénévoles, le conseil d'administration et Christian Polge, avec lequel je suis aujourd'hui. Bonjour Monsieur Polge.
Bonjour et bienvenue à l'APA.
Christian Polge, vous êtes président du conseil d'administration de l'APA depuis fort longtemps. Et puis, voilà, vous quittez cette fonction, là, maintenant, à la fin de l'année. Il y a déjà quelqu'un qui est, je crois, prévu pour votre remplacement, on va dire, enfin, pour la suite de cette association, pour la présidence. Alors, cet engagement, est-ce que c'est pour vous, comment dire, un état d'esprit, ou bien est-ce que c'est venu de votre éducation, par vos parents ? D'où est-ce que ça vient, cette propension à l'engagement au service des autres ? Parce que vous avez fait que ça dans votre vie, et c'est très bon, c'est très beau.
Alors, d'où ça vient ? Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents engagés, notamment mon père dans le moment laïque. Très tôt, j'ai été sensible au temps passé à l'extérieur de la maison pour agir avec d'autres, au service de d'autres. Et je ne sais pas comment, si vous voulez, mon engagement, mais dès l'âge de 15 ans, 14 ans même, J'ai participé à ce qu'on appelait à l'époque les garderies municipales, et qui était donc là, je me suis trouvé avec une jeune fille qui avait mon âge aussi, et le jeudi après-midi, on accueillait des garçons et des filles dans l'ancienne école de plein air de la ville de Nîmes, au-dessous de, c'était le lieu où il y avait l'antenne de Radio Nîmes. Et là, nous, avec les moyens de bord, nous passions un petit film en noir et blanc, nous les faisions jouer, et voilà. Et puis, ainsi, je me suis engagé à la fois dans le cadre de la communauté protestante, je me suis engagé dans le cadre des mouvements laïcs, aussi d'éducation populaire, et ça a été, j'allais dire, ce qui m'a à la fois aidé à grandir, ce qui m'a donc responsabilisé, ce qui m'a enrichi et ce qui m'a jusqu'à aujourd'hui porté et que j'ai retrouvé dans mon engagement professionnel aussi, puisque je pense qu'un engagement professionnel est en partie éclairé par toutes ces expériences-là. J'ai la chance d'avoir une épouse qui très tôt s'est engagée elle aussi, et qui a compris l'importance que représentait l'engagement pour moi, et qui m'a accompagné dans cet engagement, et voilà, nous en sommes là actuellement.
Et les choses se sont enchaînées, de votre vie d'engagement, sans doute dès le début, dès 14-15 ans, comme vous le dites. Et puis par votre métier aussi, puisque vous avez fait des études pour être éducateur, et puis vous avez été très jeune, donc directeur du collège Samuel Vincent. Est-ce que vous pouvez nous dire deux ou trois mots au sujet de ce temps dans ce collège, parce que vous êtes resté très longtemps en tant que directeur?
Alors le terme collège n'est pas tout à fait juste. Le nom de l'association, c'est la société de l'école Samuel Vincent.
La société, d'accord.
L'exemple, si vous voulez, c'est une. Donc, à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, des protestants, nîmois, accompagnés par des protestants de Paris, libéraux, du courant de pensée, crée ici une association dont la vocation était d'accueillir des garçons qui souhaitaient faire des études de théologie, mais qui n'avaient pas le niveau scolaire pour y arriver. Donc c'était une école préparatoire. Ça a été la première action. Très rapidement après, c'est devenu un internat scolaire pour permettre toujours à des garçons protestants de venir faire leurs études à Nîmes, puisque les collèges et les lycées à l'époque étaient sur la préfecture. Et cela a duré jusqu'à 1900, alors pas l'école préparatoire, mais l'internat scolaire a duré jusqu'à 1973. Et parallèlement à cela, il y a eu deux classes qui ont été ouvertes, entièrement privées, qui avaient pour objectif d'accompagner des enfants dyslexiques. C'était une expérience pédagogique assez unique, en tout cas dans la région et même en France. Je suis arrivé à la direction de Samuel Vincent, je suis rentré à Samuel Vincent en 72-73, et ma mission qui m'a été confiée par le conseil d'administration a été de repenser tout le projet associatif. Pourquoi ? Parce que d'une part, les internats scolaires n'avaient plus de raison d'être parce qu'il y avait une multiplication d'établissements scolaires sur le département, donc moins de raisons d'internat. Parce que les foyers jeunes travailleurs s'étaient créés. Et donc, je suis arrivé là. À l'époque, c'était donc le pasteur Lhermé qui était le président de ce conseil d'administration et Louis Tichy qui était le directeur. Dès 1973, j'ai pris la direction de cet établissement, de cette association, en créer un projet associatif, un projet pédagogique éducatif complètement différent. Nous avons fermé l'internat scolaire et nous avons ouvert une maison d'enfants à caractère social. Vous avez évoqué ma formation d'éducateur spécialisé. J'ai mis très tôt en place des structures qui correspondaient à ma conception, à mon approche que j'avais de l'accompagnement social, qui n'était un accompagnement de soutien à la parentalité, qui n'avait pas pour objet d'éloigner l'enfant de son milieu familial, mais de créer les conditions pour que la prise en charge familiale soit la plus constructive possible pour tout le monde. Ensuite, donc ça s'est fait, c'est la maison d'enfants à caractère social. Ensuite, mon attachement à l'école laïque, à laquelle je dois beaucoup, m'a amené à reposer le problème de ces deux classes privées. Et donc j'ai rencontré les services d'éducation nationale de l'époque, et c'était au moment où on mettait en place dans les établissements du premier et du second cycle, les collèges, des classes à tout petit effectif pour enfants dont la scolarité était perturbée par des problèmes de santé. Et donc on a transformé ces deux classes pour enfants dyslexiques en collèges spécialisés, donc collège spécialisé Samuel Vincent, unique en France, dont la mission était d'accueillir 32 élèves, niveau 6e, 5e, 4e, 3e, une équipe pédagogique limitée à 3 enseignants, les matières principales, le français, les mathématiques et la langue, donc c'était l'anglais. Et c'est mon épouse qui a pris la direction de cette partie-là, de ce collège. Et puis nous avons j'ai continué à développer au sein de cet établissement un certain nombre de dispositifs qui me permettait de construire des programmes éducatifs qui s'appuyaient sur les valeurs que j'avais, que je vous ai tout à l'heure données, le respect des parents, l'intérêt de l'enfant, la cohérence avec l'environnement, la non-substitution parentale. Et ainsi, cette structure est devenue une structure importante sur le plan départemental. Ça a été le lieu d'expérience pédagogique, aussi bien au niveau du collège que de la maison d'enfants. Et puis nous l'avons développé avec des services de prévention spécialisés, avec des services de proximité, Nous l'avons implanté sur Nîmes, bien sûr, mais sur Vauvert aussi. Voilà, donc nous avons multiplié des lieux d'accueil par enfant dans l'histoire des programmes montés par François Dolto. Donc on a construit un lieu de réflexion pédagogique et éducative qui a été assez singulier et dans lequel nous nous sommes beaucoup investis, mon épouse et moi-même, sachant que ça a été une partie de mon activité professionnelle, puisque je me suis aussi engagé très tôt dans la réflexion sur les programmes sur le plan national, en participant à des groupes de réflexion ou en donnant des cours dans les unités de formation, que ce soit sur Nîmes ou Montpellier, et en participant à des actions d'évaluation d'établissements et services dans la région. Voilà, donc ça a été une vie assez professionnelle, assez riche, qui s'est terminée il y a maintenant 16 ans.
D'accord. Et vous connaissiez déjà l'association protestante d'assistance, vous commenciez à y participer en même temps, ou c'est venu plus tard, après la fin de ce travail à Samuel Vincent, non. Disons.
Alors, la connaissance de l'association protestante d'assistance, c'était un peu confus pour moi. Bon, très tôt, j'ai eu des engagements dans la paroisse, au départ dans la paroisse du Grand Temple, en assurant l'école biblique. Et puis très tôt, nous avons, avec Françoise Girard, la femme du pasteur Audier, ouvert un lieu à la Gazelle, la salle de la Gazelle, qui à la fois était un lieu d'école biblique, mais qu'on a prolongé dans l'après-midi sous forme de centre aéré. Donc très tôt, on a développé ça. Donc je me suis trouvé engagé très rapidement dans la jeunesse protestante, avec des mouvements de jeunes, d'une quinzaine de jeunes. On a créé une troupe de théâtre amateur qui tournait sur l'ensemble de la région. Et donc je suis rentré assez tôt dans la responsabilité de l'église locale, puisque j'avais été désigné comme représentant de la jeunesse au niveau du conseil de paroisse du Grand Temple. Et puis quand j'ai pris mes responsabilités au niveau de Saint-Vincent, le pasteur Pelling m'a entraîné dans cette aventure en me proposant de rejoindre le conseil de paroisse, donc de ce qui est devenu après les Angales. Je suis rentré au conseil presbytéral, j'ai siégé à sa commission des affaires générales, j'ai assuré la partie de la commission financière, et puis j'ai assuré la vice-présidence du conseil presbytéral pendant un certain nombre d'années, qui se compte en dizaines d'années. Parallèlement à ça, j'ai rejoint le conseil régional, donc où je siégeais en tant que secrétaire adjoint. Et ensuite, dans le monde protestant, alors j'ai rejoint la Fédération Entraide Protestante, surtout le volet social, médico-social, etc. J'ai été le président de cette instance sur le plan régional en Méditerranée, de Nice à Perpignan, de Perpignan à Nice. Et j'ai présidé pendant de nombreuses années le groupe de ce qu'on appelait de la protection de l'enfance, où on a organisé chaque année des rencontres techniques, professionnelles, mais aussi un colloque national sur Lyon. Donc, alors, mon lien avec l'APA, il a été... Donc, je savais qu'il y avait cet engagement donc, social au niveau de l'Église. Et puis, c'est un jour, donc, Albert Birus, qui était le président de l'APA, m'a contacté en me disant, j'arrive à la fin de mon parcours, je souhaiterais que tu puisses rejoindre l'APA et prendre des responsabilités. Je voyais déjà de quoi il parlait comme responsabilité.
Bien
donc,
sûr.
J'étais encore moi-même en activité. Je lui ai dit, écoutez, j'ai beaucoup d'affection et d'amitié et de respect pour vous. Et à force de tourner, j'ai rejoint l'APA comme vice-président. Donc, ça fait 24 ou 25 ans maintenant. Je n'ai donc pas pris la présidence, je suis resté président vice-président jusqu'en 2017. Et en 2017, au moment où Roland Chazal, qui était le président de l'époque, partait, que le secrétaire général de l'époque, Philippe Verseille, partait, on était, que le trésorier Albert Lénard partait, on était dans une période charnière, et je me suis dit, bon, ben, tu vas rester pour assurer cette liaison. J'avais dit que je restais pour 2 ans, et je suis resté pour 7 ans. Mais ça se termine là maintenant, puisque Antoine Caillou, qui est protestant et qui est de l'abonnage, donc a accepté de prendre cette présidence-là. Nous avons préparé cela pendant une année. Et nous avons beaucoup échangé et partagé. Je pense qu'il est prêt là aujourd'hui à assumer cette responsabilité dès le 1er janvier, 0h, puisque, ou une minute, puisque ça sera à ce moment-là que ça, le passage de relais se fera. Voilà, donc je termine cette histoire avec l'APA. Je ne quitte pas mon engagement dans les mouvements protestants, puisque je suis administrateur et très engagé au niveau de la maison de santé protestante. Ou même si je n'ai pas de responsabilité de présidence, je participe beaucoup au travail qui est fait là-bas. Je suis administrateur de l'association protestante de service, association que j'ai créée lorsque j'étais à l'APA, puisque c'est une fille de l'APA. Et parallèlement à cela, et comme j'ai toujours eu deux pieds, un pied dans l'engagement, un mouvement protestant et un mouvement laïque, je préside la maison des adolescents du Gard que j'ai fondée donc il y a maintenant 10 ans, qui est un établissement, une structure qui aujourd'hui a une lourde responsabilité sur le plan départemental et qui vient d'être confirmée par les gouvernements qui se sont succédés. Ensuite, je préside le comité départemental d'éducation pour la santé et je suis administrateur d'une association culturelle qui s'appelle Passionnément Patrimoine et qui a plus de 300 adhérents et qui organise le vendredi et samedi des visites de la ville de Nîmes sur le plan patrimonial. Voilà, donc il me reste encore quelques activités.
Encore une riche palette d'engagements, très, très diversifiée un petit peu aussi avec la culture, etc. Donc c'est aussi très intéressant. Par rapport à l'association protestante d'assistance, quels sont, c'est toujours un peu difficile d'extraire des moments importants, mais est-ce qu'il y a dans ce long temps que vous avez d'engagement là avec l'APA, est-ce qu'il y a des moments particuliers qui pour vous vous ont marqué ou ont été importants ou soit pour vous mais aussi pour l'APA peut-être ou...
Vous savez, l'APA est une association particulière. De l'expérience que j'ai du monde associatif et des organisations associatives, elle est particulière parce qu'il y a plus de 150 bénévoles et il y a 2 salariés. Et donc nous sommes dans une organisation où l'engagement est fort, mais en même temps, c'est fragile. Puisque, et ça se comprend, lorsque vous gérez une structure où vous avez des salariés, il y a des contrats qui sont passés, il y a des règles de fonctionnement, bref, il y a le droit du travail. Lorsque l'on est à l'APA, on est sur l'engagement, c'est-à-dire la générosité, la bonne volonté et la liberté de partir ou de rester. Puisque ce n'est pas l'apport essentiel sur le plan économique comme le travail l'est bien souvent. Donc, deuxièmement, l'APA a besoin de témoigner à la fois de son histoire, et c'est ce que j'ai rappelé vendredi dernier lorsqu'il y avait la journée des bénévoles, toutes ces initiatives qui ont été prises, mais comment, avec l'Église et dans l'Église, mais comment à un moment donné, en 1904, lorsque l'association est créée suite à la séparation de l'Église et l'État qui va être en 1905, etc., comment à un moment donné, cette association a pris son envol. Mais elle l'a pris progressivement. Et donc, elle a essayé de répondre aux besoins des moments, tout en préservant, tout en rappelant son histoire et ses origines, mais tout en prenant de la distance par rapport à cela, non pas de la distance d'indifférence, mais de la distance pour se mettre au service de l'ensemble de la population nîmoise, etc. Alors, il y a eu des temps importants. Il y a eu des crises au sein de la PA, c'est-à-dire au moment où il a fallu faire évoluer la notion de distribution, la notion de distribution alimentaire, la notion de distribution vêtements, et qu'on passe vers des dispositifs d'épicerie, de vestiaires, de friperies. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des approches différentes, des conceptions différentes de la notion d'aide et d'accompagnement. Bon, donc ça a été, ça a généré de l'inquiétude, ça a généré de l'incertitude. Bon, ça a été des périodes de conflits, mais de conflits positifs, parce qu'ils avaient comme objectif d'adapter la réponse aux besoins. Donc nous sommes passés progressivement d'un dispositif de distribution à un dispositif d'accompagnement. Quand je dis accompagnement, ça veut dire que il y a l'écoute exprimée par celui que l'on reçoit, et dans le bureau nous trouvons que c'est un bureau d'écoute et d'entretien, de ce qui fait son besoin et comment on va lui permettre de pouvoir bénéficier. Et puis comment on va lui permettre aussi de se reconstruire, de garder la tête haute. Et donc là, on essaie, tant que faire se peut, d'associer les bénéficiaires au service de l'APA. D'autres moments qui ont été des moments importants, c'est lorsque l'APA, dans sa fonction humanitaire, s'est développée, elle a aussi été interpellée par d'autres partenaires pour développer des dispositifs qui faisaient l'objet de prises en charge publiques, l'aide à domicile, le soin infirmier à domicile. Et donc l'APA a attiré en son sein d'autres structures, une association d'USES protestante, une association non protestante Saint-Christ-sur-les-Alès, et progressivement, ce dispositif, financé par les fonds publics, etc., s'est développé. Et donc, on a décidé un jour de scinder ces deux activités, d'installer au sein de l'APA, Association reconnue d'utilité publique, ce qui était à l'origine de cette reconnaissance, c'est-à-dire la dimension humanitaire, et de créer une association qu'on appelait Association protestante de service, dans laquelle seraient assumées les responsabilités qui font l'objet d'un financement avec le département, l'agence régionale de santé, etc. Et j'ai contribué à cette organisation. Ça a été un temps important. Troisième temps important, c'est la crise du Covid. La crise du Covid, elle a bousculé à plusieurs niveaux. D'une part, bon, tout s'est arrêté. Et du jour au lendemain, il a fallu prendre des relais sur des besoins vitaux, que les gens mangent, que les gens puissent continuer à avoir des soins, etc., que les gens puissent s'habiller. Il a fallu aussi faire face au départ des bénévoles, puisque à partir d'un certain âge, on a décrété que les bénévoles les gens ne pouvaient plus assumer leur responsabilité bénévole. Bon, voilà. Donc, l'APA a démontré à ce moment-là sa capacité de réaction. Immédiatement, la distribution alimentaire s'est organisée pour ouvrir beaucoup plus pour répondre. Le vestiaire s'est organisé pour continuer à répondre dans des conditions sanitaires qu'il nous fallait respecter aux besoins. Et nous avons fait un appel aux bénévoles et nous avons reçu énormément de personnes plus jeunes qui n'étant plus, ne pouvant plus travailler, etc., sont venus se mettre au service de ce nouveau besoin. Ça a été un temps important et qui a témoigné de la capacité d'adaptation de l'association. La réactivité a été immédiate. Les pouvoirs publics ont mis en place les dispositifs une semaine, 10 jours après. Nous, dès le lendemain de l'intervention du président de la République qui disait « je décrète, pas le couvre-feu, mais enfin, une nouvelle organisation pour quelques temps », on a été opérationnel. Et ça, on le doit à la capacité d'adaptation de Marie Orsay, la secrétaire générale, et de Monique Boulier, la secrétaire. Ça, ça me paraît, ça a été un temps important. Ensuite, c'est Après, c'est toute cette volonté, si vous voulez, de sortir de du service à la distribution pour aussi offrir aux personnes que nous accompagnons des moyens d'assumer leurs responsabilités. Alors, je pense au cours de français langue étrangère, je pense aux visites à domicile pour éviter l'isolement, je pense aux activités de soutien scolaire pour les gamins qui fréquentent l'école de l'oratoire. Bref, je pense à l'antenne médicale qui apporte beaucoup en relation avec la Croix-Rouge. Et puis après, il y a les visites culturelles, etc. Bref, l'APA est un carrefour. Elle est curieusement identifiée dans la ville de Nîmes. Elle est dans l'histoire de la ville de Nîmes. Ce n'est pas une grande association en termes de vitrine. Par contre, c'est une association sur laquelle on peut compter. C'est une association qui, lorsqu'on a besoin d'elle, est en capacité, elle l'a démontré, de répondre aux besoins. Et puis le dernier ouverture et que j'ai voulu porter, c'est l'ouverture sur la cité. Que l'APA ne soit pas qu'un dispositif de distribution, mais qu'il puisse être un dispositif qui ouvre au dialogue, à la réflexion. Et vous avez évoqué le colloque qui se tient tous les ans. Nous en sommes au 6e, cette année c'était sur le thème de l'engagement. Et là, dans le cadre du sémaphore, en relation avec des établissements scolaires, avec l'apport de philosophes, de sociologues, de théologiens, etc., depuis 6 ans, nous ouvrons ce débat-là.
Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission avec tout ce panel que vous nous donnez du travail énorme de l'APA. Et donc, moi, je voulais vous remercier pour cet accompagnement que vous avez eu sur le terrain en tant que président. Et puis, nous vous souhaitons une bonne suite avec toutes vos activités encore et encore. Et merci beaucoup pour tout ce que vous avez donné à l'APA. Christian Paul, merci pour cet entretien.
Merci à vous de m'avoir reçu et bonne route à Radio Alliance aussi.
Merci beaucoup.
Thank you.